Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vois que le sujet intéresse, évidemment, parce qu'il est bon de devenir vieux. Ça veut dire qu'on a vécu. Évidemment qu'on est arrivé jusque-là. C'est une façon optimiste de voir les choses. Hein. C'est pas du tout ce que dit le moraliste roumain, d'origine roumaine, Sioran, quand il dit dans « De l'inconvénient d'être né », si on ne meurt pas jeune, on est appelé à le regretter tôt ou tard. C'est vrai, mais quand même, il vaut mieux faire un parcours de vie. Alors, d'abord, quelques chiffres, si vous permettez, quand même. Un livre qui a un an, maintenant, qui est sorti en octobre l'année dernière, la même année, d'ailleurs, qu'un livre qui était collectif, hein, que j'ai coordonné sur Naître aujourd'hui. Donc, c'est un peu le pendant, si vous voulez, de la venue au monde. C'est la sortie du monde, là. Et il y a eu le rapport mondial sur le vieillissement et la santé de l'OMS qui a été rédigé justement par mon préfacier, le professeur Jean-Pierre Michel, qui enseigne à Genève. Et puis il y a eu un rapport sur la prévention de la dépendance liée au vieillissement qui a été présenté par le même gérontologue Jean-Pierre Michel à l'Académie de médecine l'année dernière, le 26 octobre 2015, très précisément. Il y a eu également un rapport sur vieillesse et longévité d'André Vacheron, qui est cardiologue parisien, membre de l'Institut, et qui l'a présenté l'année dernière également à la Conférence nationale des académies. Ce que dit entre autres Montaigne, là, que j'ai beaucoup cité dans mon livre, à savoir « L'utilité du vivre n'est pas dans l'espace de temps, elle est dans l'usage. Tel a vécu longtemps qui a peu vécu, donnez-lui toute votre attention pendant que vous en jouissez. » Il y a tout. Il n'a dit aucune bêtise sur le plan scientifique, Montaigne. C'est ça qui est absolument extraordinaire, alors que tant d'autres, en son temps et même après, ont dit des fadaises. Voilà. Et puis, la sénescence est une volée de marche irrégulière que certaines dégringolent plus vite que d'autres. Il est évident qu'il y a des vitesses de vieillissement comme de développement au début de la vie extrêmement différentes, ce qui fait que ce qu'il faut bien dire d'emblée, et c'est un début de ce livre, il faut, vous savez, prêcher, répéter, etc. Maurice Tubiana avait commencé bien avant moi, hein, à savoir qu'il n'y a pas de corrélation entre l'âge d'état civil qui est sur la carte d'identité ou le passeport, et l'âge biologique. Bah, y en a qui vieillissent très précocement et d'autres qui restent encore assez gaillards à 80 et 90 ans. Donc voilà. Alors, ça dépend de beaucoup de facteurs, évidemment. Hein, ça dépend de facteurs génétiques. Hein. On sait qu'il y a des centenaires plus nombreux au Caucase et en d'autres endroits du monde. Ils sont très étudiés, évidemment, sur le plan génétique, pour savoir s'il y a des gènes particuliers. Rappelez-vous Jeanne Calment, qui est morte quand même à 120 ans. Hein, 120 ans. Et alors, le plus fort, c'est qu'elle avait enterré trois de ses notaires qui avaient eu l'audace de prendre sa maison en viager. Bon, c'était pour elle une espèce de gage de jouvence. Et ils sont morts. Et puis, si on se réfère aux textes les plus anciens, la Bible, Moïse serait mort, c'est dit, dans le Pentateuque, à 120 ans. Et son frère Aaron à 115 ans. Donc ça nous donne de la marge. Alors, sur ces belles paroles, quelques chiffres. En 1950, il y avait 11% de gens de plus de 65 ans. En 2000, 16%. En 2015, 18%. On voit donc la montée. Hein, la France vieillit manifestement. Et en 2050, on a prévu plus de 30% de gens de plus de 65 ans, qui est un peu un seuil, bien que c'est ça, c'est impossible de donner un seuil de la vieillesse, 75 ans à peu près, mais enfin, tout ça, c'est très, très variable. Ça me rappelle les écarts-types pour la puberté. On avait les mêmes écarts, et bien on le trouve également à la fin de la vie. Le seuil a été atteint dès 1865, ce seuil des 65 ans. Et il a fallu 115 ans pour l'élever à 14%. Ce doublement serait observé en moins de 3 ans actuellement en Chine et au Brésil. Et la fécondité en France explique que le vieillissement soit plus lent chez nous que dans les autres pays européens. Et le vieillissement, il faut bien l'avoir dans la tête, c'est dû d'abord et avant tout à la diminution de la mortalité infantile, qui a été longtemps effroyable, de 150 pour 1000 au début du XXe siècle à moins de 4, 3 pour 1000 actuellement. Donc c'est ça qui a allongé la durée de vie. Alors il y a eu les progrès de la médecine, de l'hygiène, bien entendu, mais c'est essentiellement ça qui... C'est comme on oublie toujours de dire que c'est les vaccinations qui ont eu un rôle essentiel dans la lutte contre les maladies infectieuses. Ce n'est pas les antibiotiques, ce sont les vaccinations. Il faut le répéter, le marteler, parce que vous avez des gens pour se singulariser, même des médecins, c'est assez abominable, qui se font les ennemis des vaccinations. Mais c'est un fait. C'est ça qui a fait disparaître ces fléaux infectieux, dont la variole en particulier. Voilà. Alors, durant les 20 dernières années, on a donc constaté une augmentation d'espérance de vie extraordinaire et qui continue de plus de 3 mois par an chez l'homme et supérieure à 2 mois chez la femme, avec une amélioration évidemment de l'état de santé qui ne cesse pas. Et donc, on est autour de 80, plus ou moins de 3 chez l'homme, 84 plus chez la femme. Et puis, il y a des conditions. À l'Académie de médecine, la moyenne de mortalité, parce qu'évidemment, les académies sont immortelles, mais pas ceux qui en sont membres, c'est de 87 ans à peu près. Vous voyez, c'est quand même assez intéressant de voir ça. Alors, la dépendance, eh bien, c'est ça, si vous voulez, le grand progrès. Ce n'est pas tout de vieillir, mais c'est de vieillir dans de bonnes conditions. Et on a augmenté de 10 ans l'espérance de vie. Et c'est ça qu'il faut voir. L'espérance de vie sans dépendance. Voilà, c'est ça. Vieillir, c'est bien, mais ce qu'il faut surtout, c'est vieillir en bon état, en bonne santé, et éviter la dépendance. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'arrivera pas, évidemment, mais c'est ces 10 ans qui sont vraiment gagnés. Alors, en 2012, il y avait 1 million, un peu plus, de personnes âgées dépendantes qui recevaient l'allocation d'autonomie. Et ça faisait à ce moment-là 8 milliards. Et en 2060, on pense qu'il y en aura au moins 2 millions. En l'absence, évidemment, d'actions préventives. Alors, ensuite, longévité et vieillissement. Retraite, oui, mais pas retrait. Ça, c'est un de mes slogans favoris. Oui, vous êtes retraité. Oui, je suis en retraite, mais je ne suis pas en retrait. Alors, on va développer cette notion, si vous le voulez bien. L'âge théorique de la retraite à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, c'est 62 ans. Et l'âge médian de sortie du travail est de 59 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a des pré-retraites d'entreprises, il y a des licenciements, il y a des gens qui ont des problèmes de santé. Bien. Alors, les gouvernements, évidemment, s'en sont occupés. Le gouvernement Raffarin, en 2002, a fait le passage à 40 ans de cotisation dans le public et dans le privé. Et le gouvernement Hérault, en 2012, passage à 43 ans dans le but d'augmenter les cotisants actifs et diminuer les chômeurs âgés et retraités. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a un sous-emploi des seniors des plus de 50 ans. Et on n'est pas vieux à 50 ans, certes. Voilà. Alors ça, c'est un enjeu majeur pour répondre aux défis du vieillissement démographique. Alors, si on compare les différents groupes, les groupes de 55 à 64 ans, ils sont définis par l'Union européenne comme réservoir principal de main-d'œuvre. Et actuellement, les 25 à 50 ans occupent 80% des emplois et ils ne représentent que 41% de la population. Alors qu'en Suède, les seniors de 55 à 64 ans, à plus de 60% sont en activité. Et en Allemagne, plus de 60%, en Finlande, Pays-Bas, 60% et en France, 45%. Donc, ce n'est pas tout de vieillir, d'être retraité, d'être en bonne santé. Ben, il faut être actif, il faut avoir une utilité, je dirais. C'est ça qui est essentiel. Donc, il faut envisager, là, je parle comme un politique, mais ils sont toujours en retard, vous le savez. C'est comme pour les lois, elles sont en retard par rapport aux mœurs. Il faut construire une société adaptée à la diversité des âges et développer la notion, le concept de capacité de travail. Qu'il y ait une complémentarité et une coopération des générations au travail. On en parle un peu des seniors, ça a été fait timidement par le gouvernement actuel, les seniors qui aident les juniors, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Et il faut développer cette notion de maintenance de l'habilité au travail, la maintenance of work ability avec un index, hein, comme le font les anglo-saxons. Alors, il y a l'auto-évaluation, ce qu'on souhaite faire, ce que l'on se sent capable de faire, et puis qu'il y a un examen, évidemment, de santé fait par un médecin pour voir si ce qu'on raconte est authentique, hein, évaluer les capacités physiques, intellectuelles, cognitives, la pénibilité d'une activité, voilà, le rythme, le temps partiel, les congés en alternance. Bref, il faudrait envisager une retraite à la carte comme ça se fait en Finlande, hein, pays scandinaves qui sont souvent en avance sur nous, sur le plan sociétal. Et puis, avec l'âge, on ne peut pas faire ce qu'on fait, évidemment, à 70 et 80 ans, ce qu'on faisait à 30 ou 40. Alors, il faut adapter aux possibilités. Et cette notion, je trouve, qui a été développée par mon préfacier, là, Jean-Pierre Michel, le SOC, c'est-à-dire sélection, optimisation des capacités restantes et compensation des pertes liées à l'avance en âge. Voilà. Et j'avais donné dans le livre l'exemple d'Arthur Rubinstein, le grand pianiste, hein, que les plus anciens d'entre vous ont certainement connu, qui était merveilleux, hein, et qui disait « Je m'arrêterai de jouer, non pas quand je ne verrai plus les notes, mais quand je ne verrai plus le piano. » C'était une façon évidemment humoristique de faire comprendre les choses. Il a joué jusqu'à 95 ans. Mais évidemment, il ne jouait plus les passages virtuoses, etc. Il adaptait à ses possibilités. Moi qui suis montagnard, bien, je ne fais plus évidemment ce que je faisais à 40 ou 50 ans. Hein, bien sûr. Bien, mais j'adapte en fonction. Ben, on fait des parcours avec tous mes compagnons, n'est-ce pas? Bien, on évoque évidemment les souvenirs, hein, de nos faces nord d'antan, mais ben, on se contente de chemins en Aragon en particulier, où il y en a pour toutes les capacités. Voilà, et ça, c'est dans tout. Et puis, évidemment, être prudent, ne pas monter. Moi, j'avoue que je ne fais plus le lagage chez moi. J'ai des haies qui sont très hautes, très larges. Alors, je faisais ça, évidemment, au bout des bras, etc. Là, je paye quelqu'un pour le faire. Voilà. Il faut quand même être raisonnable. Hein. Ça fait partie de la connaissance de soi-même. Hein. Alors, pour améliorer le vieillissement, en bonne santé, il y a évidemment des mesures de prévention. Alors moi, je n'ai pas voulu faire un traité de gériatrie, mais ça va de soi. Il y a les addictions, évidemment. Hein. Le tabagisme est épouvantable, ça, mais il faut commencer tôt à ne pas fumer. Hein. Mais enfin, il vaut mieux s'arrêter, sans que je précise l'âge. Hein. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas. J'ai vu là, ces jours-ci, un journaliste très connu qui n'arrête pas de fumer. Les cigarettes s'enchaînent, n'est-ce pas? Il est dans un volute de fumer, surtout quand il est nerveux, qu'il doit parler, etc. Comme si ça calmait, pas du tout. Et je lui ai dit, vous savez, chaque fois qu'on descendait, là, il fumait. Je lui ai dit, c'est la cigarette du condamné. Où j'ai fait 4 enfants, j'ai fait 20 livres maintenant. Je lui ai dit, oui, si ça vous rend malheureux de ne pas fumer, continuez. Ça ne sert plus à rien. C'est évident, il ne faut pas se rendre malade. Hein. Mais enfin, il faut éviter les addictions, hein, que ce soit le tabac, l'alcool et toute autre drogue, bien entendu. Le risque iatrogénique est très, très important avec l'âge. Vous avez beaucoup de gens qui vont dans les hôpitaux parce qu'ils ont pris trop de tel ou tel produit, c'est incoordonné, c'est n'importe comment, ou qui font carrément de l'automédication. Alors ça, les accidents iatrogènes, les effets indésirables, comme on dit les médicaments, ça concerne beaucoup de gens âgés, il faut faire très attention. Il faut prendre ce qu'il faut, ce que dit le médecin, avoir un pilulier, que ce soit fait pour la journée, quand il dit « Ah, j'ai oublié de prendre mon produit », etc. Et puis on en rajoute, ou on l'oublie. Voilà, la compliance, l'adhésion au traitement, voilà, le sérieux, c'est important. Surtout pour des maladies comme le diabète, par exemple, hein, voilà, et d'autres. Bien, l'activité physique régulière, hein, évidemment, à tout âge, contre la sarcopénie. Quand on dit sarcopénie, ça fait rire. Hein, oui, c'est la fonte musculaire. Mais on n'a pas besoin de courir pour... entraîner ses muscles. On peut faire ce qu'on appelle les contractions isométriques. Quelqu'un qui est opéré dans son lit, il ne va pas gambader, donc il peut faire des contractions isométriques dans son lit pour les membres inférieurs, agir chez les membres supérieurs, il y a des moyens. Puis il y a l'électrostimulation aussi.
Et puis, quand on est valide, eh bien, personnellement, je recommande l'aquagym parce que, vraiment, c'est avec des sortes d'haltères au poignet, aux membres inférieurs également, ça permet véritablement d'entretenir la masse musculaire. Voilà. Alors, ce qui est important aussi chez la femme, c'est prévenir l'ostéopénie avec la vitamine D. Bien, mais il n'en faut point trop non plus, parce que les gens qui ont tendance à faire des cailloux, si vous leur donnez trop de calcium et vitamine D, ils risquent de faire la lithiase. Donc là encore, il faut mesurer les avantages et le risque. Hein. L'automesure de la pression artérielle, ça, je crois qu'il faut le prêcher largement dans la population. Parce que la cause des AVC, il y en a trois. L'hypertension artérielle, le diabète et la fibrillation auriculaire. Bien, alors le diabète, bien, ça on le sait, bien, si ça vous arrive, eh bien, il faut traiter le plus correctement possible le diabète. L'hypertension artérielle, alors il y a l'hypertension majeure qu'on va traiter, mais il y a les hypertensions cachées, variables, c'est les plus dangereuses. Donc le plus simple, hein, c'est d'acheter un appareil d'automesure, il y en a très fiable, dans le marché, et périodiquement. Alors, si vous la prenez le matin, elle est un peu plus élevée que dans le reste de la journée, parce qu'il y a tout le système hormonal qui se met en branle. Là, à la fin de la nuit, ça augmente un peu. Et après, en étant en repos, évidemment, il faut au moins 15 minutes de repos pour la prendre. Mais ça, c'est très important, parce que je connais des gens qui sont morts d'hypertension cachée. Et le summum, on peut le dire, c'est celui qui a décrit le French Paradox. Il a comparé les Français, en particulier du Sud-Ouest, aux Anglo-Saxons. Hein, et les gens du Sud-Ouest, en particulier, qui mangent beaucoup de confits, hein, de foie gras, etc., eh bien, ils ont moins d'accidents coronariens et vasculaires que les Américains. Il faut dire que les Américains et les Anglo-Saxons, c'est dès le matin, le jambon, les œufs, etc. Il n'y a rien de tel pour faire du cholestérol. Hein. Bien, et donc, il y a un effet protecteur. Et le vin, évidemment, qui donne un effet protecteur. Eh bien, ce confrère Reynaud a eu une hypertension cachée qu'il n'a pas dépistée. Il a fait un AVC. Et ça a terni complètement les dernières années de sa vie. Donc, prenez l'attention périodiquement. De même, le tour de taille ombilicale. Bien, si on le répète, si on insiste, ça c'est très important. Alors, il vaut mieux être poire que pomme, comme disent certains. La femme a moins de danger en ayant, n'est-ce pas, de la stéatopygie, hein, les poignées d'amour, hein, que l'homme qui a le bidon en avant, n'est-ce pas, ça c'est beaucoup plus dangereux. Il y a une corrélation étroite avec les coronaires. Donc, il faut surveiller. Tout ça, c'est pour dire. Alors, j'ajoute aussi, se prendre le pouls, c'est pas compliqué. J'ai vu hier un de mes confrères, très, très estimé, très, très sympathique de l'Académie de Bordeaux, hein, qui a un âge très avancé, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est pas parce qu'en âge avancé, il était valide, avec une tête extraordinaire, et puis il a négligé une fibrillation auriculaire. Et la fibrillation auriculaire, sans anticoagulant, c'est le risque de caillots qui partent de l'oreillette dans le ventricule gauche et ensuite envoyés au cerveau. Donc, hémiplégie, etc., aphasie. Donc, c'est épouvantable. Donc, c'est très simple de se prendre le pouls. Et s'il est irrégulier, il faut consulter. Il faut faire un électrocardiogramme, voir s'il y a une arythmie complète, une fibrillation auriculaire. Alors, il y a les moyens d'améliorer le rythme, de le rendre sinusal. Mais c'est surtout les anticoagulants pour éviter l'embole. Et j'en ai des exemples autour de moi. Un chirurgien de l'Académie de médecine, qui a maintenant 2 ans, était dans sa propriété à Arcachon. Et je lui avais dit, 2 mois auparavant, je lui avais conseillé de prendre des anticoagulants. Mais comme il avait pris de l'aspirine, m'a dit son fils ultérieurement, une fois qu'il était mort, hein, il avait pris les petites quantités, 75 mg d'aspirine, là, les doses de nourrisson, l'aspégique, là, et il avait eu un hématome de la fesse. Elle avait mis dans tous ses états. Il ne voulait pas entendre parler d'anticoagulants. Il a fait un embol, hein, tel qu'il en est mort. Bien, il y a des situations évitables. Alors, ce n'est pas parce qu'on est vieux que, c'est des belles morts, on entend ces bêtises. Non, il y a des morts illégitimes. On a beau avoir 90 ans. Si on est en bonne santé, si on a un cerveau qui marche bien, eh bien, mourir comme ça, j'estime que c'est mourir bêtement. C'est une mort illégitime. Hein, voilà. Ça, c'était Henri Bricot qui employait ce terme de mort illégitime. Donc, tout ça pour dire que, et là, j'aime beaucoup l'expression de mon ami Bernard Ouerny, être médecin de soi-même. Ah, être médecin de soi-même, savoir ce qui est bon pour soi et ce qui est mauvais. Voilà. Et se contrôler. Donc, je vous ai dit, et je pense que c'est utile, le périmètre ombilical, très bien, mais la tension artérielle, le pouls. Eh bien, rien que ça. Hein, si ça passait dans le public, on éviterait pas mal d'AVC. Alors, la biologie de la sénescence, ça, c'est dans mon livre, il y a un chapitre là-dessus, mais je ne vais pas en parler. C'est évidemment tout à fait à l'étude. Il y a eu le développement du début de la vie, et puis il y a le pendant, hein, la sénescence. Hein, les différents organes, et comment définir la sénescence? Est-ce qu'il y aura un index? Là, on n'en a pas pour l'instant. Hein. Et comme je vous disais d'emblée, hein, comment définir biologiquement la sénescence? C'est pas. Parce qu'il y en a qui vieillissent mieux que d'autres, indubitablement. Donc, comment évaluer ça? Hein, pour savoir, justement, les capacités restantes des emplois, même dans le bénévolat. Mais il faut s'employer, il faut faire quelque chose, il faut être utile. Hein, si on n'est pas utile, si on ne sert pas aux autres, on perd son intérêt dans la société et on se dévalue soi-même. Hein. Donc ça, c'est... Et on a de très beaux exemples quand même, hein, de gens qui sont restés des peintres, des artistes, etc. Voyez Jean d'Ormesson. Voyez Jean d'Ormesson, il résume bien la situation. Hein. Moi, j'ai entendu il y a 2 ans, il nous a fait un exposé à l'Académie pour remercier la médecine de l'avoir tiré d'affaire. Hein. Parce qu'il était vraiment passé par un très mauvais pas. Donc, il a remercié les médecins et les aides-soignantes, hein, qui sont aussi très, très utiles, parce qu'elles sont là de tous les instants. Et la vie, en deux, son titre, c'était « Le monde est beau ». Alors, il a commencé par dire, il a raison, « Bon, c'est épouvantable, on est appelé à mourir. C'est pas tant de mourir soi-même, ben, mais c'est de perdre des êtres chers. C'est ça qui est terrible. Hein. C'est ça, l'amputation. Hein. » Bien. Ben oui, c'est comme ça, c'est épouvantable, mais il faut faire en sorte que la vie soit belle, voilà, et que chaque instant soit heureux, voilà. Ben c'est ce que disait Montaigne déjà, hein, tout au long des essais. Voilà. Donc après cette introduction, pour résumer le livre là qui vous est présenté et qui peut vous intéresser, que je vous signerai très volontiers, je crois que le plus simple, c'est et comme ça, moi, ce n'est pas mon avis, hein, ce que j'en pense. C'est l'analyse qu'en a faite mon confrère et ami, le médecin parisien Pierre Godeau. Pierre Godeau, qui est connu par son traité de médecine, hein, qui est sans cesse réédité, que connaissent tous les étudiants en médecine aujourd'hui, et qui m'a fait la gentillesse donc, d'analyser, sa date, ce n'est pas vieux, du 24 mai, 2016 à l'Académie de médecine. Ouais. Alors, il dit bien que. Donc, je lui ai donné, je lui ai dédicacé, il dit qu'il n'a pas été déçu, etc. Alors, cet ouvrage comporte 3 parties. La sénescence en littérature, le temps et les âges de la vie dans la peinture occidentale et la sénescence en perspective biomédicale des anciens aux modernes. Mon propos n'est pas d'en faire l'exégèse ni un rapport méticuleux, mais de vous faire partager quelques éléments de réflexion qui vous donneront le désir d'une lecture approfondie. Peu de gens savent être vieux. Cette maxime de La Rochefoucauld suggère de répondre à une question préalable. Qu'est-ce que la vieillesse? Il suffit de tourner quelques pages pour découvrir le portrait d'une très vieille femme. C'est le portrait gravé de la mère d'Albrecht Dürer, qui est morte à 61 ans, ça devait être en 1512 ou 13, non, 63 ans. Elle mourut en 1514, voilà, elle est impressionnante, enfin, vraiment, c'est... Et alors, par opposition, il dit, ben, regardez le portrait que j'en ai fait du doyen Émile Aron quand il a eu 100 ans. Un œil vif, extra, il est mort à 104 ans. C'était le cousin germain de Raymond Aron. Émile Aron, qui nous a quittés à l'âge de 104 ans en 2011, une photo prise par Jacques Batin lors de son centenaire montre un homme au sourire malicieux et à l'œil vif, évoquant un siècle de travail et de réflexion. Il nous a laissé le souvenir d'un homme intellectuellement actif et combatif. On mesure la relativité de l'âge et du temps et l'erreur fondamentale de chercher des repères chronologiques pour définir arbitrairement le début de la vieillesse. Pourquoi ne pas rechercher la réponse dans la préface très documentée de Jean-Pierre Michel, expert en la matière, ou simplement de lire le sous-titre de l'ouvrage « Essai autour de Montaigne », qui, dès l'âge de 40 ans, se sentait engagé dans les avenues de la vieillesse. Et même à 30 ans, il se trouvait pas très gaillard. La réponse est en réalité fournie par le titre même du livre, « La vieillesse réussie ». Alors, c'est la reprise du terme des anglo-saxons, le « successful aging », hein, bien sûr. C'est l'image que chacun se fait de la sénescence et de la mort, qui est le critère déterminant. L'originalité, c'est pas moi qui le dis, hein, du livre de Jacques Bataille, est d'avoir abordé sous l'angle de l'art et de la littérature cet essai sur le vieillissement réussi sans s'apesantir sur l'aspect médical du vieillissement devenu un lieu commun. Je vous l'ai dit, c'est pas un traité de gériatrie. Hein. Certes, à notre époque, on n'aime pas parler de vieillesse et encore moins de la mort. Il est plus sécurisant d'envoyer nos vieillards mourir dans la pénombre d'un service hospitalier, antichambre de la chambre mortuaire, que de le veiller à domicile, comme le faisaient encore nos anciens il y a un demi-siècle. L'auteur évoquant aussi bien la société occidentale contemporaine et ses paradoxes que le respect des anciens dans la société africaine nous invite à réfléchir à la confusion des âges, l'accession si difficile des adolescents à l'âge adulte, d'arriver à l'adultité qui est retardée, que le jeunisme, parfois un peu ridicule, de ceux qui ne veulent pas vieillir. Comment ne pas évoquer l'ouvrage de Maurice Tubiana, que j'ai bien connu, « Le bien vieillir, la révolution de l'âge » auquel Jacques Bataille se réfère à diverses reprises. Si l'anthologie littéraire est nécessairement réduite à quelques auteurs essentiels, elle n'en est que plus indicative de choix très cohérents. Deux critères semblent prédominants. Assimiler la vieillesse comme un des âges de la vie et non comme une déchéance. Bien, ok. Tout le monde est d'accord. Apprivoiser la mort, qui n'est pas qu'un drame inéluctable, mais le terme attendu d'une vie réussie, ou qu'on doit réussir. C'est bien ce qu'exprime cette maxime, donc qui m'attribue, « Il faut toute une vie pour apprendre à vivre comme pour apprendre à mourir ». C'est un peu la chanson d'Aragon, hein, ça. Hein, ouais. C'est aussi la leçon de Sénèque et du stoïcisme, ce que symbolise son suicide conjugal en réponse au despotisme de Néron, comme le sera l'époque contemporaine, celui de Stefan Zweig, hein, qui était parti au Brésil, hein, devant la progression du nazisme. Ce n'est pas exactement ça, c'est lorsque les Japonais ont envahi Singapour. Alors là, il a vu la fin du monde, l'apocalypse, et il s'est suicidé avec sa femme. Alors, l'essai sur les essais que Jacques Bataille consacre à Montaigne, aurait pu faire l'objet d'un livre autonome, d'autant plus que cette étude approfondie déporte largement le cadre strict du vieillissement et que l'auteur n'a pu se priver d'une évasion vers l'ensemble de l'œuvre. Inutile de préciser que nous ne regrettons pas cette digression riche d'enseignements. En citant Aragon, on ne meurt pas en un jour, et en ajoutant, en réalité, on vieillit à petit feu. La vieillesse est une lente dégringolade. L'auteur nous livre à contrario un message optimiste s'opposant aux pessimistes nombreux chez les lettrés enclins à la dépression. Et il y en a toute une série de Michel Houellebecq, hein, je ne cite pas parce que hein, c'est particulier, mais c'est à lire. Hein, même Valéry, c'est épouvantable, hein, il était d'une dépression. Vivre, c'est survivre, ça en dit long. Hein, oui. Il nous rappelle que grâce au progrès de la médecine, on sait réparer et même remplacer les pièces usagées, des prothèses aux transplantations. Jacques Bataille qui nous apprend qu'il a côtoyé la mort à deux reprises, l'une lors d'une descente en rafting qui a failli se terminer par une noyade provoquée par un maladroit, oui, qui m'avait étranglé, il me prenait pour une bouée. Hein, L'autre par un accident cardiaque nécessitant 7 chocs électriques pour stopper une fibrillation ventriculaire. Oui, et Michel Kohl était présent, mais il est mort. Donc je suis un ressuscité depuis maintenant 18 ans. C'est quand même formidable. Hein, 2,5% de chance de ressuscitation. Bah, j'étais dans ce petit créneau-là. Voilà, et j'en remercie le ciel tous les jours. a certainement gardé de ces deux accidents une expérience personnelle inégalable, comportant à la fois une évaluation plus sereine de ce que peut apporter aux mortels un vieillissement réussi et une approche de notre fin inéluctable, désacralisant en quelque sorte le spectre de la Camarde. Cette expérience personnelle rejoint celle relatée par Montaigne d'une chute de cheval qui aurait pu être fatale, mais dont l'enseignement est que la nature nous présente l'état éternel qu'elle nous réserve après elle pour nous y accoutumer et nous en ôter la crainte. Et ce qui est formidable dans cet essai sur la chute de cheval, c'est que Montaigne décrit déjà, comme les neuroscientifiques d'aujourd'hui, les différents états de la conscience. C'est un chapitre tout à fait extraordinaire. Il est mort à 61 ans. C'était dans une période d'accalmie entre les guerres civiles et religieuses, hein, où il était parti quand même avec son épée, n'est-ce pas? Et puis il était monté, le petit homme, sur un petit cheval. Et puis un de ces gars était monté sur un grand rousset. Et paf, il est arrivé, ils sont tamponnés. Le cheval est tombé, Montaigne projeté à des mètres de là, et puis pouf, il était complètement groggy, quoi. Il a vomi du sang et tout, et il décrit très très bien cette remontée de la conscience. Hein. Et pour lui, c'est comme une image de la mort. De même que la chute d'une dent lui fait évoquer la perte ou la diminution de la force virile. Vous voyez, il fait des assimilations heureuses. Oui, on part... oui, alors quand on est l'ascendant, là, c'est un peu la fin. Mais vous savez, le premier qui a employé l'ascendant, ce n'est pas notre président actuel, c'est Shakespeare. Il a un mot que j'ai cité dans le livre, là, où il parle d'ascendant. D'une manière, vraiment, vous voyez, notre président a des lettres, quand même. Hein. Alors, le survol de la littérature s'inscrit... Non, un survol de la littérature s'inscrit comme une transition vers le chapitre consacré à une évocation du temps et des âges de la vie dans la peinture occidentale. Et citant Friedrich Nietzsche, « L'art nous est donné pour nous empêcher de mourir de la réalité. » J'aime beaucoup cette phrase de Nietzsche. L'auteur réussit une heureuse synthèse de l'art et de la littérature. Il nous guide, grâce à une judicieuse sélection, dans le dédale des œuvres consacrées à la vieillesse et à sa place dans les âges de la vie. De Giorgione, mort la vecchia de l'Accademia de Venise, mort de la peste à 33 ans, et du Titien, le maître de Giorgione, et qui est mort à presque 100 ans, et qui est un des premiers à avoir illustré les trois âges de la vie de l'homme. C'est une vie panoramique jusqu'aux trois frères Lenain du XVIIe, Goya, Géricault, etc. Cette prise de conscience du vieillissement n'est-elle pas en réalité plus intime? Jacques Vatin le rappelle dans une heureuse formule. On ne devient vieux... Alors, on devient vieux quand dans sa tête, on ne se perçoit plus jeune. Ceci explique la place importante qu'il réserve à l'autoportrait dans ses choix et commentaires. De Dürer, c'est le premier à s'autoportraiturer. Vous avez le portrait du Louvre, hein, au Chardon, vous en avez un autre à Munich. C'est un peu le pendant des essais de Montaigne. C'est l'homme moderne, moderne au sens historique, parce qu'on emploie le terme moderne à toutes les étapes modernes. Ça veut dire la période du 15e au 18e, hein. Donc là, on est dans le 16e avec Montaigne et Dürer aussi. Et donc, ils sortent de l'homme médiéval et voilà, je ne dis pas l'homme sans Dieu, mais c'est mis à côté et ils osent s'affirmer. Voilà. Et il le dit, Montaigne, hein, je peins et en moi, je peins l'humaine condition. Voilà, tout le monde va s'y retrouver. Hein. Donc, ceci explique la place importante qu'il réserve à l'autoportrait dans ses choix et commentaires, de Dürer à Jam Sensor, le Belge, entouré des masques de la mort, à Lucien Freud, le petit-fils de Freud, hein, de Sigmund, qui s'est peint tout nu, avec des sandales, des godillots, la palette à la main, et vraiment, il a fait du corps humain la matière, une matière picturale. Ça a été le peintre le plus cher de son vivant. Il est mort il n'y a pas très longtemps. Hein, oui, et c'est un peintre tout à fait passionnant. Hein. À Jam Sensor, entouré des masses de la mort, à Lucien Freud, et à Picasso, qui, après Rembrandt, alors Rembrandt, je crois qu'il a fait dans les 130 autoportraits. que ce soit en peinture, en dessin. Il a commencé très jeune, il s'est suivi. Évidemment, c'est très facile pour le peintre. Quand il n'a pas de modèle, il se regarde dans la glace et puis il se... Et presque tous les peintres ont fait l'épreuve, ont eu l'épreuve du portrait. Donc Rembrandt et Picasso. Picasso, c'est pareil. Je crois que 80 fois, il s'est peint. Mais il y a aussi Cézanne, Van Gogh et tous. Voilà. Alors, il termine, et ça, c'est, j'ai été très touché par ce qu'il a dit à la fin, c'est l'évocation de la personnalité de Jacques Martin, donc qui nous apparaît à la lecture de ce livre. Évidemment, on se peint toujours, même quand on ne se met pas à la première personne, hein, c'est soi-même qui s'exprime. Voilà. Et il dégage trois aspects schématiques, l'homme du Bordelais, le pédiatre, l'environnement familial. Impossible d'oublier que Jacques est un Bordelais. Jacques est un Bordelais fier de ses origines et de sa contrée. Il nous le rappelle tout au long de ce livre. Nous suivons avec intérêt ses études au lycée Michel de Montaigne. Il nous fait redécouvrir l'amitié virile de Montaigne et de la Boétie. Quelques allusions picturales nous rappellent l'ouvrage très documenté et richement illustré qu'il a consacré aux peintres du bassin d'Arcachon. En réalité, je ne l'ai pas appelé comme ça, je l'ai appelé le bassin d'Arcachon par les peintres. Parce qu'il y a beaucoup de mauvais peintres, il y a des arcachonnades, donc je n'ai pas mis dans le titre les peintres du bassin d'Arcachon. J'ai fait un choix. Donc c'est le bassin d'Arcachon par les peintres, c'est tout à fait différent. Et avec une préface de Michel Suffren, vous le trouvez, il est intemporel, si je peux dire. Hein. Quelques considérations œnologiques ne manquent pas de saveur et de goût de Jacques pour la bonne chair et la convivialité qui l'accompagnent. Témoignent d'un hédonisme que je ne renie pas, qu'il considère comme un des paramètres indispensables du vieillissement réussi. Se référant encore à Montaigne, nous sommes faits pour jouir heureusement de notre être. Le pédiatre réapparaît dans la troisième partie de l'ouvrage, le généticien également. Au-delà de l'image caricaturale et dramatique de la progéria, vous en avez vu à la télévision, ou du syndrome de Werner, c'est des enfants qui vieillissent prématurément. À 10 ans, ils font des infarctus, ils ont la cataracte, etc. Et donc, ils sont très étudiés génétiquement, parce que ça peut nous donner évidemment des clés du vieillissement naturel. Qui, pour enrichir un tableau de Jérôme Bosch, Jacques Martin nous rappelle que la médecine des enfants et celle de la vieillesse ne sont pas si éloignées et que c'est dès l'enfance qu'il faut adopter des habitudes alimentaires et d'activité physique, conditionnant en grande partie les actions de prévention que redécouvrent les contemporains, qui n'auraient pas dû oublier l'adage qu'on apprenait au lycée, « mens sana in corpore sano », des Romains, ou le précepte de saint François de Sales, 17e siècle, introduction à la vie pieuse, si mes souvenirs sont bons, c'est « il faut bien soigner le corps pour que l'âme s'y sente bien ». Le troisième trait de caractère de Jacques Martin nous apparaît en filigrane, c'est l'importance des liens harmonieux avec ses proches, principalement son conjoint et ses enfants. Durablement frappé dans l'enfance par la fin tragique de son père, déporté à Buchenwald, libéré mais mort de tuberculose quelques semaines plus tard, Jacques Martin a heureusement gardé de la famille le sentiment profond de son rôle essentiel dans l'équilibre de chacun de ses membres, et notamment dans la pérennité d'une activité intellectuelle et physique, gage d'une vieillesse réussie. Permettez-moi de terminer cette évocation, donc c'est à l'Académie de médecine, où la moyenne d'âge est élevée, hein, il y a pas mal des mérites, hein, cette évocation par une boutade. Je crois que, qui est dans le livre, je crois que la vieillesse arrive par les yeux et que l'on vieillit plus vite à voir toujours des vieux. C'est un conseil de Victor Hugo dans Ruy Blas. Étant donné l'âge moyen des académiciens, cette affirmation pourrait être d'un goût douteux. Mais comme j'aurai bientôt 86 ans et que vous avez tous la jeunesse du cœur et de l'esprit, je pense que l'assistance régulière aux séances de notre compagnie est au contraire un des mécanismes essentiels d'un vieillissement réussi. Vous voyez, ça veut dire qu'il faut être actif, quoi. Voilà, il ne faut pas dételer. Au moins intellectuellement. Hein. Ce qu'a dit François Mauriac de la vieillesse. Il l'a dit lorsque son frère Pierre, en 1963, pour ses 80 ans, ses élèves ont organisé un hommage au Splendide. On lui a remis, non pas une médaille, mais son portrait gravé. Et François Mauriac lui a dit des mots qui sont très touchants. « Où va ton amitié pour tes malades ?» etc. Mais voilà. Dans un beau morceau de littérature, il parle de la vieillesse et de la composition du vieil homme que l'on est appelé à devenir. Voilà ce que dit Mauriac, qui n'est pas facile à trouver. Hein. Il faut avoir quand même ce texte. Vieillir est difficile. La vieillesse ne s'improvise pas. Elle est le total d'une vie. Il ne nous appartient pas d'en changer les données, ni de retoucher les livres. Pas un de nos actes, pas une de nos pensées, depuis l'enfance, qui n'entre dans la composition du vieil homme que nous sommes devenus. Toutes nos victoires, toutes nos défaites, ce qui a paru aux yeux des hommes et ce qui n'a été connu que de nous-mêmes et que de Dieu, c'est de cela que le vieillard est fait, et c'est ce qui rend si émouvante aujourd'hui cette réunion des témoins de ta vie, cher Pierre. Ces fils de ton esprit et tes enfants selon la chair, ces élèves d'autrefois sont devenus des maîtres, ces enfants qui sont devenus des pères et des grands-pères, il n'en est aucun qui n'ait vu tisser ta vie fil à fil. »